Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans tous les sens et surtout sans frontières.
Mais ça dépend pour qui. En direct du studio 511, une émission réalisée par Céline Hila, assistée de June Loper, avec Jérémy Guillon à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, politique d'accueil et de non-accueil des migrants. Alors que partout en Europe, l'extrême droite gagne du terrain, le bilan est sombre. À Riace, petit village de Calabre qui fait figure de modèle d'intégration, le maire Domenico Lucano a été arrêté. Et en France, la dramaturge Nadège Prugnard dénonce à travers installations et textes engagés ces murs qui tuent.
On est quand même 500 millions de personnes, on peut bien trouver moyen d'accueillir quelques millions d'autres dans un pays aussi grand.
Monde de merde, nos borders, go!
People inside the jungle, refugee and for the peace, and with the peace, with all solidarity.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux, les voyez-vous?
Ne pas se tromper de cible, ne pas se tromper d'ennemi. Pour ne pas laisser les peurs vous aveugler. Prenez les migrants par exemple. Voilà une peur facile à incarner, qui a l'avantage immédiat d'être visible beaucoup plus que les pillages tout aussi réels des criminels en col blanc. Un exemple, la maternité du Blanc justement, à 60 km de Châteauroux, est occupée depuis vendredi par des citoyens contre sa fermeture définitive, qui fait que les femmes devront faire une heure de route pour accoucher, faute de personnel. Et pendant que 200 personnes tente d'empêcher le verdict des calculettes en temps d'austérité, un scandale financier d'une autre ampleur passe comme une lettre à la poste, la Cum-Ex, où comment 55 milliards d'euros ont disparu des caisses de l'Europe grâce à d'habiles transferts passe-frontières permettant à des actionnaires de se faire rembourser par l'État des taxes sur les dividendes qu'ils n'ont en réalité jamais payés. Stratagème qui continuerait de faire perdre 3 milliards par an au fisc français, qui doit donc fermer la maternité du Blanc près de Châteauroux. Alors quand je vous disais qu'il faut faire attention à qui agite le chiffon rouge, car quand l'État social prend l'eau de toutes parts, avec le recul organisé des solidarités, entre contrôle des frontières ou contrôle des mouvements de capitaux, certains ont vite choisi. Nos borders, c'est aussi le slogan des flux financiers. Et plus le flux de migrants s'épuise au mur de la forteresse Europe, plus l'air qu'on y respire s'y empuantit. Et ce vent mauvais, on le voit à Neuve Charlotte en Italie, où l'extrême droite veut mettre en pièces le village des migrants de Riace, modèle d'intégration porté par un maire devenu la bête noire de Matteo Salvini.
Arrêté il y a 2 semaines, assigné à résidence et maintenant éloigné de Riace, la décision de justice qui frappe Domenico Lucano rappelle à certains les heures les plus sombres de l'Italie, quand Mussolini envoyait à Confino, en exil intérieur, les opposants antifascistes.
Voilà jusqu'où peuvent mener les politiques du non-accueil. Mais chez nous aussi, nous vous avons fait entendre à plusieurs reprises le sort fait aux migrants. Alors cette semaine, Antoine, tu as cherché une autre manière de le raconter.
Oui, No Border, c'est aussi un texte, un poème écorché de Nadège Prugnard qu'elle va mettre en scène, mais qu'elle lit déjà sur scène. Et on a croisé nos écritures respectives, dramaturgiques et radiophoniques. Il y a son installation aussi, papier en 2 mots, et c'est pas tendre. C'était devant la préfecture de Cergy, il y a quelques jours, sous la pluie, avant la lecture de son texte No Border au Théâtre 95, sur la jungle de Calais, No Way.
Jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, après les politiques du non-accueil, No Border, mais pour qui ?
Après le Brexit, après Donald Trump, avant la France et l'Allemagne, que peut-il donc se passer aux Pays-Bas ?
L'organisation Human Rights Watch dénonce les lois prises par le gouvernement polonais qui sapent l'état de droit et menacent divers droits humains.
Et puis en Italie, on attend toujours la formation d'un nouveau gouvernement. Et dans cette perspective, l'extrême droite progresse dans les sondages.
Vivent-ils ?
À chaque crise majeure comme celle des réfugiés,
Charlotte Perry.
À chaque élection ici ou là sur le continent européen,
Antoine Chao.
La droite extrême, sous toutes ses formes, est portée par une dynamique qui ignore les frontières.
Hashtag comme un bruit.
I need milk for my children. Ça, c'est une petite botte en plastique. No Dublin. Là, il y a des mocassins. Par où m'avancer ? Je suis un vaccin contre le fascisme. Ça, c'est une petite basket d'enfant. No country. Mohamed, 30 janvier 2016. Please help me. La mer est mon tombeau. Une chaussure de femme. Nous sommes des réfugiés. C'est des bottes de montagne comme des après-ski. L'âme n'a pas de couleur, n'a pas de frontières. Rejeter l'autre, c'est rejeter une partie de soi.
C'est ça, tu vois, c'est leur histoire. C'est vrai que j'aime bien que ça vive dehors avec les intempéries.
Alors Nadège,
Oui, Antoine.
On est devant la préfecture du Val d'Oise.
Tout à fait, ouais.
On est installé des centaines, voire...
Des milliers, 1500 messages.
Plantés...
Comme des petits drapeaux, ouais.
Sur des chaussures, hein, c'est ça.
Pour redire la route de ces hommes en marche qui traversent le désert de Libye, la Méditerranée, au péril de leur vie. Et ces messages, donc, ont été écrits par une cinquantaine de demandeurs d'asile qui sont présents depuis une dizaine de jours là, dans la ville de Cergy. Voilà. Et le préfet a exigé qu'on démonte. Donc ça, c'est très grave. Puisque sur ces panneaux, ne sont marqués que des messages d'espoir, des petits témoignages, des désirs, une sorte de factualité. Là, je lis « Où aller ? Par où m'avancer ? Je veux aller à Londres. Où est votre démocratie ?» Nous sommes tous des réfugiés du capitalisme. Et il y a la liste des morts, bien évidemment, de tous ces hommes et femmes qui sont morts en France, renversés par des camions, écrasés par des trains, etc. Voilà, je me cache pour pleurer. Voilà, je lis ça, là.
Zebiba, 29 juin 2015.
Morte en France pour avoir voulu trouver la liberté, ouais. Omar El Zouaki, 29 septembre 2015. Elias Al-Kadri Mohamed, 18 septembre 2015. Il s'agit de mettre en place une désobéissance civile pour le bien fondé de nos humanités. Alors ça, c'est un message qui vient de Calais.
Dans quelques instants, votre train arrivera en gare. Quelle est-il ? Terminus du train. Le conseil régional Nord-Pas-de-Calais.
From jungle here. From the heart of each refugee here. Inside the jungle.
Alors bon là, un cimetière des plus classiques, hein, avec...
Avec plein de noms du coin, Foucault, tout ça, il doit y avoir plein de Fasquelle et tout. Et on arrive à un endroit où, donc tu vois, il y a beaucoup de sable, il reste encore de l'espace libre, et il y a des petites pancartes en bois, avec quelques petites tombes. Ouais, en 2015, on a déjà quand même pas mal de tombes. Hein.
Fadel Salé, 1993-2015, 22 ans. Abderrahman Adam, 22 ans aussi.
23 ici.
Ali Saïd. Et donc là, il y a encore une dizaine d'emplacements qui sont préparés.
Oui, exactement, avec des panneaux avec rien dessus. Voilà, ça laisse présager un joyeux futur sur Calais. Et là, on voit une ligne derrière, là, où il n'y a que des numéros. Là. Numéro 5107, 5108, et voilà.
C'est la tombe du réfugié anonyme.
Exactement, c'est quelqu'un qu'on a dû retrouver dans le Nord et que personne ne sait vraiment qui c'est. Et puis, vu que ça faisait plusieurs jours, pour la reconnaissance, c'était un peu plus compliqué. Il y a des tombes aussi très petites, comme tu peux le remarquer ici. Il y a la date du décès, mais pas la date de naissance.
On voit à la taille que c'est des enfants qui ont une dizaine d'années, quoi, c'est ça.
Tout cassé, ouais. On a tout cassé.
Koula Asia... Disparu en 2016.
Voilà, pareil, là, on n'a pas de date de naissance. Quoi.
Une toute petite tombe. Amina Boutalet. Ouais. Décédée le 30 mars 2010.
Monde de merde ! Nos bordeurs ! Go !
Je suis perdue. Je suis perdue du genre... être perdue très loin, on ne sait où. Elle est où, la démocratie ? J'ai perdu Vénus, la première étoile qui éclaire la nuit. Je vais sûrement repartir au nord du désastre. J'ai les yeux foutus, je suis un ange déchu, ils m'ont déjà pris, j'ai les ailes arrachées. Vous feriez mieux de nous tuer ici directement que de nous renvoyer là-bas. Parce que là-bas, c'est balle dans la tête directe la mort. Si vous nous tuez ici, au moins ça vous coûtera moins cher pour l'avion. Et les familles, elles sauront ce qui est arrivé, elles pourront cueillir une fleur... et pleurer. Là-bas, ton corps pourri dehors, sans nom, sans sommeil, fouetté par le soleil raide, noir, branche obscène. Là-bas, les rafales de Kalachnikov nous ont mis à genoux à notre arrivée. J'ai senti le sang chaud de mes frères couler sur mon corps quand on est tombé. J'ai senti leur corps brûlant se vider sur ma peau quand on est tombé. Même Antigone n'a pas hurlé. Même Antigone ne saura jamais que son frère a été tué. Même Antigone ne peut pas. Même Antigone peut pas. Elle peut pas. Elle peut pas. Elle peut rien, la révolte là-bas. Y a pas de route au pays des cadenas. Un écho sans réponse. Un gueuloir pour violon. Chaque tas de cailloux est une menace. Là où on ne voit rien, se trouve la mort, le viol, la douleur. Je me cache de noir en noir, dépouillé de mon auréole. Ma capuche est pleine d'ombre. Ma famille est morte. Mes sœurs ont été violées sur la route d'Aptara qui mène à Khartoum. C'est take all my people. I don't want to say anything. I don't want to say anything. C'est trop dur d'en parler.
Cergy, préfecture.
J'habite à Cergy.
Vous habitez Cergy?
Cergy, préfecture.
Patinoire d'agglomération.
Oui. Oui. Facebook.
Il y a une semaine.
Il y a une semaine, d'accord. Semaine. D'accord. Et là, vous êtes logé en ce moment à la patinoire, c'est ça?
Ah ouais. Il y a 20 jours.
Vous avez quel âge?
22 ans. Hein.
Et de quel pays tu viens?
Soudan.
Soudan.
Soudan?
Oui. Ouais.
Tu connais le Soudan?
Non.
Afrique. Écoutez, l'Égypte.
À côté de l'Égypte.
Oui.
Depuis combien de temps tu es ici?
Une semaine.
Une semaine?
Oui. Une semaine de repas à Cergy.
Et pourquoi alors vous êtes ici?
C'est normalement, je suis immigration. Je arrive ici pour le problématique qui vivre. Mais vous connaissez le problématique de immigration qui vivre en France? Ah oui, c'est une chose qui m'arrive ici. Pour rester le calme après cela, je trouve une place, je reste là. Patinoire.
Dans la patinoire, là, derrière,
ah, resté, oui.
Et là, vous demandez l'asile, hein, c'est ça, en France?
Oui, exactement. Je suis demandé d'asile. Mais les demandes d'asile européennes, généralement, est très difficile. Je suis soudain.
Soudan aussi?
Oui.
C'est la guerre au Soudan en ce moment?
Exactement. Il n'y a de guerre. Tout le monde elle connaît bien la guerre au Soudan. Ouais. J'arrive en France en 2017. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas de papier comme ça. Je n'ai pas de chambre. Je marchais sur le rythme. Mais je dis remercier beaucoup.
Et vous avez quel âge?
28. Ah.
28?
Oui.
Non, mais en plus de ça, c'est un truc de ouf parce que les queues à la préfecture.
Oh ouais, les queues
Pour les papiers et tout, c'est plus que ça. Il y a des fois des trucs comme ça.
Liberté, égalité. Mbappé.
Parvis de la préfecture. Cergy. Cergy Soie, Festival des arts de la rue et du cirque. Papier en deux mots. PASPIEDS. Nadège Prenard, Julie Romeuf. Installation artiviste dans les rues de Cergy Grand Centre. Imaginée par Nadège Prenard et Julie Romeuf à partir des messages de réfugiés rencontrés à Calais et ailleurs. Dites à l'ennemi que nous ne sommes pas des guerriers du dimanche. Notre magnificence et nos dorures sont peut-être crottées à marcher péniblement dans la boue. Et le temps nous a rendus loqueteux, dépenaillés. Mais nous ne fuirons pas, nous continuerons à marcher. Shakespeare.
Parce que c'est parti de Calais, hein, tout ça. Hein. Du moment du démantèlement en 2016, où moi j'avais rencontré donc beaucoup d'hommes, de femmes, donc qui m'avaient confié des messages... des choses à faire passer, etc. Et donc, comme certains n'ont pas pu, enfin la majorité, récupérer leurs affaires, il restait donc des tas de fringues, de papiers, d'objets et énormément de chaussures. Et donc, voilà, avec Julie Romeuf, qui était étudiante à la FEAR, du coup, on s'est emparé de tous les souliers, des messages qu'ils m'avaient confiés, et on allait planter ça la nuit, le lendemain du démantèlement, devant la mairie et la préfecture de Calais. Et c'est parti de là, en fait. Et c'est assez troublant parce que c'est juste une chaussure avec un petit papier. Et les gens sont assez touchés parce que ça redit vraiment, je crois, nos fragilités, nos errances, nos désirs les plus profonds. Et puis comme ça vit dehors avec la pluie, les intempéries, ça se casse. Donc du coup, on se représente, je crois, encore plus fort... La dangerosité quoi de ces chemins qu'ils doivent traverser au péril de leur vie pour venir ici, et ici ils se trouvent confrontés à des murs, des murs de la mort, quoi, des murs qui tuent.
Ici, à Calais, il y a beaucoup d'immigrants. Hein.
Ah, vous avez quel âge ?
Là, j'ai 24 ans. J'étais mineur quand je suis parti d'Afghanistan.
Et là, on est sur la rocade. Il y a des grands grillages partout avec des barbelés.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Parce que ça, c'est la route qui mène au bateau, au ferry.
Oui.
Et donc, c'est grillagé, des barbelés.
Sur 20 km, ils ont mis des grillages. Et voilà.
Sur 20 km ?
Oui, le double grillage.
Et de temps en temps, on voit des habits qui sont restés accrochés sur ces, sur
oui,
ces barbelés.
Il s'est dessous et il met les couvertures dessus pour traverser.
Et pour essayer de monter dans ces camions qui sont là et qui font la queue pour rentrer dans le ferry, c'est ça ?
Oui, exactement, exactement.
Voilà, et là, on voit, c'est le port, là, hein, c'est ça, c'est le port
oui,
de Calais.
C'est le port de Calais, oui. Tu vois, il y a beaucoup de camions, là, partout, il y a des camions, là.
Oui, il y a des centaines et des centaines de camions qui embarquent.
Là, ils passent par là, il y a des scanners ici, voilà, ils voient tout dedans. Et s'il y a des gens dedans, il y en a. Ils regardent tout, il y a un contrôle, après deuxième contrôle, et après troisième contrôle. Dernière, c'est un cinquième contrôle. C'est le Chia qui contrôle tout après. C'est le dernier contrôle. Il y a des gens qui essayaient comme ça aussi pour aller nager.
De traverser à la nage.
Oui, c'est trop dur, non, c'est pas possible. Oui. Et les migrants aussi, c'est des êtres humains, hein. c'est pas des animaux, hein, parce qu'ils ont des difficultés là-bas. Ils ont mis les grillages partout, c'est trop dur. Il y a beaucoup qui meurent, et il y a beaucoup d'immigrants qui meurent. C'est à cause de, voilà, parce qu'ils essayaient sur le camion, voilà. Ils essayaient partout. Et quand le train, il démarre, voilà.
Ils courent, ils voilà, s'accrochent,
voilà. Ouais. Ouais, sous le pont aussi, voilà, partout. Il essayait. Voilà. C'est trop dur, oui, c'est trop dur.
Merci, Ramanjan.
Je ne parle pas très bien français. Hein.
Mais si.
Nadège Prunière, toi, tu travailles sur la question de la migration. Tu as aussi beaucoup passé du temps sur la jungle à Calais. Hein.
Ouais, ouais, tout à fait. Sur un travail d'écriture, là, d'un geste que le metteur en scène Guy Alouchri m'a commandé sur. La question des exilés, donc, qui demeuraient dans ce qu'on appelait donc la jungle de Calais. C'est-à-dire du moment où les migrants ont été expulsés donc du centre-ville par la mairesse pour se retrouver donc dans une espèce de no man's land, une ancienne décharge, un bidonville. Donc j'ai assisté aux premières tentes voilà qui se sont installées jusqu'au moment où les forces de l'ordre sont arrivées en tout cas.
Et tu as écrit ce texte, No Border.
No Border, oui. Comme le nom de tous ces gens voilà, qui sont rassemblés sous ce terme-là, tout simplement, et qui se battent pour que les frontières soient ouvertes, quoi, pour qu'on puisse tous circuler librement et s'installer où on a envie de s'installer. Voilà, No Border.
Je m'appelle Bachir. Je m'appelle Jérusalem. Je suis Akbar, Mohamed, Bijan, Hicham, Nadia. Je viens en foule avec mon corps. On est des milliers de morts à marcher. On est des milliers de noms qui se collent aux pieds. Je vis avec mille dieux et Vénus, la première étoile qui éclaire la nuit. Je suis mort mille fois et autant de résurrections. Je suis vivant et mort, mais encore en vie. Avant, j'étais mort. J'obéissais aux ordres. Shoot to kill. J'ai tué beaucoup de gens. Shoot to kill. J'étais soldat. J'étais mort. J'ai un trou dans la tête gros comme la guerre et 7 balles dans le corps. Je me suis recousu le crâne sans me raser les cheveux et je remercie Dieu de m'avoir gardé en vie, si ce mot a encore un sens. Je suis vivant et mort, encore en vie. J'ai un trou, je me répète, encore en vie. Étranger à moi-même, un immense vacarme de chiens ventriloques et de souffleurs tragiques qui crachent ton cœur. J'ai vu la guerre, j'ai vu l'abattoir à ciel ouvert. J'ai vu le sang couler sur les pianos. J'ai fait l'amour aux corbeaux. J'ai vu les mangeurs de monde qui décapitent les vies des femmes et des enfants. J'ai vu les salauds. J'ai vu les porcs. J'ai vu leur langue. J'ai vu la mâchoire des mots. J'ai vu les têtes pendre au crochet des pics. L'arrogance historique. La nouvelle pratique impériale de destruction du vivant. Les meurtriers qui occupent la scène interminablement. Le voilà le monde qui nous est fait. Un molard sanglant. Monde de merde. No Border. Go!
17. My name is
Mohamed. No good.
Mohamed. No good. No good. C'est fini.
Toute la végétation est arrachée au fur et à mesure. consciencieusement par les par la pelleteuse. Encore un arbre. Hop, arraché. Et voilà, et ça, en bordure des derniers lieux de vie qui ont été préservés, des hautes luttes. Donc le petit Balou Center, c'est le centre d'accueil des jeunes, le centre d'information. Où sont installés les grévistes de la faim, les Iraniens qui se sont cousus les lèvres en signe de protestation. La petite église en bâche avec son petit clocher de bâche et sa croix en bois. Tout ça au milieu de cette désolation du bidonville de Calais.
Je dois mourir pour rien. I have to die for nothing. You understand? Nous, habitants de là-bas, devons mourir pour rien. Ça fait partie du plan des puissants, des too big to fail. Nous faisons partie des 2 milliards d'humains qui comptent pour rien. 2 milliards qui doivent mourir pour rien. Je dois crever là-bas dans une explosion de masse ou être décapité par des fous, des fous, des fous. Et encore ici, sur ce sol tant espéré, je suis l'homme à abattre, l'ennemi public numéro 1. Je dois disparaître du point de vue du paysage politique. Je dois disparaître pour raison économique. Je dois disparaître pour raison humanitaire.
Elias, on est au 22e jour de la grève de la faim. C'est une épreuve quand même très difficile.
Alors qu'est-ce qu'ils réclament d'être entendus malgré le fait qu'ils se soient voilà, justement cousus les lèvres?
D'une certaine manière, l'État n'a pas compris que leur démonstration n'était pas individuelle mais était faite au nom de tous. Et donc que les réponses apportées à ces Iraniens devaient être des réponses collectives et pas personnelles et régler le problème de manière individuelle. Pour vous dire, déjà un d'entre eux a 17 ans, qui est mineur. Donc lui, il était à l'école quand il est en Iran. Certains étaient professeurs, ingénieurs, ces gens très cultivés.
We are in English strike. Nous sommes en grève de la faim. We need rest. Nous avons besoin de repos. S'il vous plaît, respectez-nous. Merci.
Nous, on n'a pas demandé grand-chose. On veut surtout un abri ou être en sécurité. Je m'appelle Mohamed. Je viens d'Iran. J'ai 26 ans. On est 9 Iraniens, de 17 à 50 ans, à s'être cousus les lèvres. Ça va faire 22 jours aujourd'hui. Et certains commencent à être mal en point. Mais si on a fait ça, c'est à cause de la situation ici. Parce que tous ceux qui sont là, quelle que soit leur nationalité, c'est parce que leur situation était dure dans leur pays, qu'ils ont marché jusqu'ici, dans cette jungle. Parce que cette jungle, c'est pas un endroit vivable. C'est vraiment oppressant. Il y en a beaucoup qui auraient eu moins de problèmes chez eux qu'ils en ont ici maintenant. Parce qu'ici, les conditions ont vraiment empiré. Moi, je suivais des cours à l'université. Et je bossais en même temps. Je vendais des chaussures. Mais j'ai eu des problèmes. Et tous ceux qui sont venus ici, d'Iran, ont chacun eu des problèmes et des histoires différentes. Que ce soit pour des raisons politiques ou religieuses, ou parce qu'ils sont homosexuels. Chacun a des raisons différentes. Moi, c'est des affaires personnelles. Mais c'est tous parce qu'on avait de graves problèmes en Iran. Et sinon, on ne serait pas venu dans cette jungle où la vie est si compliquée, avec le froid, la surpopulation, et maintenant les cabanes qui sont incendiées.
Thank you very much. gathering up here.
No border. Go.
Please.
Can you help me, please? Je m'appelle Abdelmajed. Lui, c'est mon fils, Mohamed. Je cherche le centre juridique. Can you help me, please? I am lost. Je suis perdu. I am lost, je te dis. Je suis à vif, lardé par le vent au-dessus de l'abîme. J'ai perdu Vénus, celle qui guide les pas humains. Où aller? Par où m'avancer? Dans quelle ville? Dans quel lieu sommes-nous arrivés? Où sont les vivants? Qui voudra en ce jour accueillir celui qui erre au milieu des fantômes de son peuple et des ombres inhumaines? Je demande peu, je n'ai rien. Et si je souris encore, c'est parce qu'il le faut. Je suis un fragment de l'absolue tragédie, un survivant de la révolution d'Isaias Afwerki. Je traverse depuis l'éternité, avec de l'eau coupée au gasoil, un blouson, des baskets en plastique, un bonnet. 1000 franchissent la frontière vivant chaque mois. C'est l'exode là-bas en Érythrée. L'empereur veut coucher avec la lune. Seule la mort est à la hauteur de sa folie. J'ai traversé le désert de Libye, Soudan, la prison, Iran, des coups, du sang, Éthiopie, Nigeria, du sang, Macédoine, Serbie, Hongrie, Autriche à pied, retour en Grèce, Turquie, Syrie, Irak, Kurdistan, des coups partout, du sang, Italie, France, Suède, France, Espagne, Italie, Macédoine, Hongrie. J'ai vu les murs devant, derrière, de côté, les murs qui avancent sur moi, sur toi, sur nous. Alors j'ai fermé les yeux fort et j'ai couru. Je me suis recousu le crâne sans me raser les cheveux. Je répète, j'ai un trou là, gros comme le monde. Un trou là, là et là, et même pas mort.
Voilà, c'est toute la partie sud de la jungle, de la jungle. C'est les bulldozers qui continuent à raser tout ce qui reste. Il reste déjà pas grand-chose, c'est... un terrain vague de plastique, de détritus suite à la destruction de toutes les cabanes et de toutes les tentes qui étaient là et à l'expulsion de tous les réfugiés qui étaient ici.
Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidé par une étoile, peut-être celle-là, première à éclairer la nuit. Première à éclairer la nuit. Première à éclairer la nuit. Vénus. 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 Lindard venimeux, là un socle trompeur. Plus loin, une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre et d'acide, probablement qui vous rongerait les os. Et puis les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Elle est née des caprices. Elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant. Pomme d'or, pêche de diamant. Et ces cerises qui grossissaient lorsque... La pluie et la rosée, toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile. Première à éclairer la nuit.
On n'est pas en colère. On veut juste la liberté. Je suis Ayman. J'ai pris 2 balles dans les yeux. Un mur géant. Un mur d'ordure. Allez, où votre démocratie? Vénus. Ici, les toilettes, on peste la gerbe et la merde. Vénus. Ici, quand tu vas pisser, on prend ta bite en photo, ta vie bousillée. Vénus. J'ai acheté des capotes bon marché. Je pisse dans des préservatifs fluo que j'enterre sous mes pieds. No photo, please. No photo. I am not animal.
François Guénoc, donc moi je suis bénévole à l'Auberge des Migrants depuis bientôt 5 ans et vice-président de l'association.
François Guénoc, qu'est-ce qui reste de cette jungle qui a été détruite et ses habitants expulsés il y a 2 ans maintenant?
Alors il reste pas grand-chose parce que cet espace a été replanté et transformé en... entre guillemets, en espace écologique, et tiens-toi bien, en espace pour accueillir les oiseaux migrateurs. Nous, nos oiseaux migrateurs, ils sont pas les autres avec deux bras et deux jambes, ils sont pas très bien accueillis. Ceux-là, ils sont un petit peu mieux traités. Donc voilà, l'ancienne jungle n'existe plus. À Calais, les exilés essayent de survivre sur 5 ou 6 endroits. Hein, des bois, des bâtiments en ruine, etc. Mais ils en sont régulièrement chassés par la police. Donc voilà, il y a cette situation-là de survie dans des conditions extrêmement difficiles. Sur le littoral, on va dire d'abord du Nord-Pas-de-Calais, c'est à peu près 2000 personnes, 2000 exilés qui sont bloqués à la frontière et dispersés sur plusieurs endroits, à peu près 500 personnes à Calais, 1200 à Grande-Synthe et puis quelques centaines d'autres dispersés sur des petits camps, on va appeler ça quand même des camps, même si la police démonte au fur et à mesure les tentes et tout le reste à mesure qu'elle les trouve, voilà, à l'intérieur du littoral jusqu'à Cherbourg. Ça veut dire concrètement que il y a une grosse pression sur les exilés, notamment de la part de la police, effectivement, pour qu'ils s'en aillent. Alors avec des violences, effectivement, qu'on a du mal nous à documenter, mais qui existent. La politique du gouvernement qui consiste à décourager les gens de rester près de la frontière, c'est un dispositif qui coûte très cher, qui est extrêmement lourd, coûteux sur le plan humain pour les exilés, mais voilà, qui effectivement a fait qu'il y a un certain nombre de gens qui sont partis sur d'autres endroits, comme la Belgique, par exemple, pour essayer de passer la Manche. Et beaucoup de pression sur les associations qui les aident également. Alors l'Auberge des migrants, effectivement, c'est la plus importante organisation à Calais, mais il y a de nombreuses associations qui interviennent. On subit des contrôles d'identité incessants, des pluies de PV, des injures quelquefois, des pressions même physiques, des palpations, des fouilles au corps. Toutes sortes de moyens, on va dire, psychologiques pour là aussi nous montrer que voilà, il faudrait pas qu'on soit là, quoi. Que, comme disait à l'époque Monsieur Cazeneuve, qu'on a exercé nos compétences ailleurs. Ah non, c'est Monsieur Collomb qui m'a dit ça. Allez exercer vos compétences ailleurs que là, près de la frontière.
C'est une politique de non-accueil qui continue, François Guénoc, sur le territoire et notamment à Calais ?
Exactement, ça c'est la politique de la France, hein, pour diverses raisons, une politique de non-accueil, et donc il faut d'ailleurs noter qu'elle coûte beaucoup plus cher que ne coûterait une politique d'accueil, surtout si cette politique d'accueil reposait aussi sur les citoyens qui sont prêts à aider, sur les petites villes, les villages, les communes, les départements, etc. Les forces de police qui sont déployées à la frontière franco-italienne, même un petit peu maintenant à la frontière franco-espagnole, le dispositif à Calais de protection de la gare TGV, du port, du tunnel, tout ça coûte des fortune. À un moment donné, il y avait 2 policiers pour un migrant à Calais, c'est 200 euros par jour et par policier. Donc ça faisait 400 euros par migrant et par jour à Calais. Et nous, quand on dépense 5 euros par exilé et par jour, on trouve que c'est beaucoup. Alors, tu vois. Donc la destruction de la jungle, le problème, c'est qu'elle a été remplacée par rien du tout, par une chasse à l'homme permanente. Pour que les gens restent pas là, quoi.
Et François Guénoc, la question des mineurs isolés étrangers, vous y avez été confronté, il y en avait beaucoup dans la jungle, ça en est où aujourd'hui ?
Alors la situation est extrêmement différente d'un endroit à l'autre, je vais te donner les exemples que je connais le mieux. À Calais, les mineurs sont relativement pas trop mal pris en charge par le département, hein, puisque c'est son travail, hein, l'aide sociale à l'enfance. Par contre, dans le département du Nord, c'est la catastrophe et le département s'est complètement désengagé. Donc dans certains endroits, les mineurs sont vraiment abandonnés à leur sort.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Académie de Paris, hors la loi.
Bonjour à tous.
Éducation égale intégration. Pourquoi sommes-nous privés de rentrée ?
Je m'appelle Omar Kaba, j'ai 15 ans, je viens de Guinée. J'étais à l'école dans mon pays, je devais rentrer en 4e.
101 boulevard Voltaire, lycée polyvalent Voltaire. Éducation égale intégration, pourquoi sommes-nous privés de rentrée ?
En fait, il s'agit d'une mobilisation pour montrer à l'Académie de Paris qu'elle manque à ses devoirs. Ce sont tout un tas de jeunes immigrés qui n'ont pas de scolarité, qui n'ont pas de logement et... Donc, pour sensibiliser, RESF et un autre organisme ont pensé qu'il fallait faire une classe sauvage devant un lycée. Donc d'un côté, on voit eux qui n'ont pas droit à l'éducation, alors que c'est une obligation. C'est-à-dire qu'un jeune, quel que soit son âge, qui arrive en France entre l'âge de 6 et 16 ans, la scolarité est obligatoire. Il doit être inscrit. Malheureusement, il n'y a pas de place. Voilà.
C'est pas bien.
Ah non, c'est pas bien, mais...
Ils méritent.
Vous êtes ici, au lycée Voltaire, ouais.
Ouais. En fait, ils font une classe, ce qu'on m'a dit, sauvage, pour montrer tous ceux qui n'étaient pas scolarisés et qui pourraient l'être.
Et vous aviez conscience qu'il y avait plein de jeunes comme ça, mineurs, isolés, étrangers, et qui n'était pas pris en charge, alors que c'est obligatoire. Hein.
Est-ce que je le savais? Ouais, après, est-ce que je m'en rendais vraiment compte? Pas forcément, non.
Vous avez quel âge?
Moi, j'ai 18, là, je vais avoir 19. Pour le coup, moi, je suis un mec qui a été repêché plusieurs années, puisque ça fait deux fois que je redouble, donc je suis vraiment... pour le coup, je suis vraiment à l'extrême opposé de... Je suis scolarisé et plus que scolarisé. Non, en tout cas, ouais, il y en a qui n'ont pas cette chance, quoi.
L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. On a envie d'aller à l'école comme tout le monde. L'Académie de Paris dit, nous, on scolarise tous les mineurs isolés. Et c'est faux. Moi, c'est Sylvain Perrier, pôle scolarité de la TIMI avec Paris d'Exil. Notre but, c'est de les amener à l'école. Tous ceux qui sont 14, 15, 16, 17 ans, leur place, elle est à l'école. Ils arrivent avec un bagage scolaire. Ils sont hyper motivés et l'Académie de Paris refuse systématiquement toute scolarisation de jeunes tant qu'ils n'ont pas été placés à l'aide sociale à l'enfance. Or, le placement, ça prend entre 3 et 18 mois. Et pendant ces 3 et 18 mois, ces jeunes-là sont sur le carreau. Avant, on arrivait à les faire scolariser quand ils étaient soutenus par des associations suivies qu'ils avaient envie d'aller à l'école. Et depuis une année, l'Académie de Paris refuse systématiquement. On en a deux encore ce matin qui se sont pointés pour passer leurs tests CASNAV, les tests de niveau, et ils ont été rejetés à l'entrée. On leur a dit « Où est l'attestation que tu as à l'aide sociale à l'enfance ?» Or, cette attestation, elle risque de prendre 2 ans, et s'ils l'ont à 18 ans, ça sera trop tard.
Et elle est souvent refusée, quoi.
Au demi, oui, en énorme majorité. Par contre, ensuite, ils doivent saisir le juge.
De reconnaître leur minorité, c'est ça,
voilà.
Souvent.
Un entretien de 30 minutes, et on les refuse. Ensuite, on leur dit « Allez voir le juge, saisissez le juge des enfants, et celui-là va confirmer votre minorité. » 80% des cas des jeunes qu'on suit, ils vont être reconnus mineurs, mais ils vont l'être beaucoup trop tard. À 18 ans, ça sera trop tard pour les ramener à l'école, alors qu'ils sont prêts à aller en CAP, ils ont certains des très bons bagages scolaires, et en tout cas, ils ont tous une motivation sans faille.
Et donc là, il y a une centaine d'élèves là, qui sont arrivés, enfin de jeunes.
Une centaine de jeunes suivent nos cours tous les jours dans les bibliothèques. Ce sont des cours organisés par Paris d'Exil, la TIMI, dans les bibliothèques parisiennes qui ouvrent leur bibliothèque hors des heures de public, et on a une centaine de jeunes tous les jours qui viennent étudier. Ils arrivent à l'heure, ils sont drôlement motivés, on leur prête des ordinateurs pour qu'ils apprennent par eux-mêmes à défaut de pouvoir aller à l'école. Et l'Académie de Paris est la seule à refuser systématiquement la scolarisation de ces jeunes. On arrive à en faire scolariser dans les banlieues pour ceux qui seraient hébergés dans les familles d'accueil en banlieue. Ceux qui squattent en banlieue, eux, arrivent à être scolarisés et ont des très bons résultats. Les profs nous disent, voilà, ce sont des jeunes qui tirent la classe et par leur motivation, ils viennent encourager les autres. Donc ce sont des élèves dont la place est à l'école.
Quelle date aujourd'hui?
Vendredi, le 7 septembre. Le
7 septembre.
2018.
Ouais. Combien il y a de jours dans une semaine?
7 jours.
7 jours.
Oui.
Alors,
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Vous avez quel âge?
Moi, j'ai 16 ans.
Vous êtes venu justement pour faire cette rentrée?
Oui, on a besoin de l'aide pour étudier. Nous, on demande à l'État pour qu'il puisse nous aider pour étudier au lycée ou au collège. C'est ça que moi, je veux dire ce matin.
Bon courage.
Au revoir à vous aussi, merci.
Répète-le encore une fois.
Tu as le droit d'aller à l'école?
Très bien. À toi maintenant.
Tu as le droit d'être...
Tu as le droit...
Tu as le droit...
D'être protégé...
D'être protégé...
Contre
les
mauvais
traitements.
À toi, troisième.
Tu as le droit de t'exprimer.
Tu as le droit de t'exprimer, exactement.
Tu as le droit de rire et de jouer.
De rire et de jouer, exactement.
Tu as le droit
d'avoir
une
Identité. Ok. Tu me répètes la phrase?
Identité. Tu as le droit d'avoir une identité.
Super, bravo. Ensuite.
Prononciation, ça.
C'est pas facile, hein, oui. La prononciation. Prononciation. Tu as le droit d'aller à l'école. Ok. Qui est-ce qui veut me le lire, la première? Tu le lis, vas-y.
Tu as le droit d'aller à l'école.
Super.
D'aller à l'école.
Okay. Tu as quel âge?
J'ai 17 ans. Je viens de Bangladesh.
Du Bangladesh,
oui. Ici, pas aller à l'école, à prendre de cours. Je suis arrivé le 13 octobre 2017. Ah non, j'ai resté ici parce que...
Une petite compote, c'est le petit-déj devant le lycée Voltaire. Et le cours sur le trottoir, donc, hein, c'est ça. C'est une rentrée alternative.
Un peu particulière comme rentrée, effectivement. C'est vrai qu'on préférerait que ça se passe plutôt à l'intérieur. Et d'ailleurs, quand on regarde leur visage, quand ils regardent les élèves, on sent qu'il y a une très, 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 très grande envie d'y être, d'être avec eux.
Vous, vous êtes enseignante ?
Moi, je suis enseignante pour eux. Je ne suis pas enseignante dans la vie courante.
Donc, avec la Timi, c'est ça ? Avec ou Paris d'Exil ?
Avec Paris d'Exil.
Avec Paris d'Exil, d'accord.
Tout à fait. Absolument. Depuis l'année dernière, en fait. Il y a une obligation de la part de la puissance publique aujourd'hui, qui, bien évidemment, ne s'exerce absolument pas dans tous les domaines, on va dire, pas seulement sur la scolarité, hein, sur l'hébergement, sur la santé. Tous ces enfants sont livrés à eux-mêmes et c'est les associations qui font le boulot.
Bonjour à tous, je m'appelle Omar aussi, j'ai 16 ans et je suis à Paris depuis 2 mois. J'étais à l'école en 4e. Comme tous les autres ici, ça n'allait pas bien chez nous. Pour moi, ma mère est décédée, je ne pouvais plus étudier, je ne savais pas où aller. J'ai décidé de partir, j'ai fait 7 mois sur la route. Maintenant, je ne peux plus reculer.
À l'arrivée, on a été refusé par la Croix-Rouge et le demi. Et nous avons saisi le juge des enfants. Et maintenant, on attend pour voir le juge. Certaines ici attendent depuis plusieurs mois, certaines plusieurs années même. On n'est pas pris en charge. On vous demande de nous aider pour ne pas rester dans la rue. Pour ne pas être des bandits ou vagabonds. Parfois, les associations nous hébergent dans des familles pour qu'on puisse se reposer. Mais ce que nous voulons, c'est aller à l'école. Ça nous donnera un métier, des diplômes. On veut une vie normale, comme tout un chacun. Et demandons l'application du droit dans le pays des droits de l'homme. Merci pour votre soutien.
No Border de Nadège Prunière sera créé et joué du 19 au 23 novembre à Culture Commune à Los Angeles. Suivront des dates un peu partout en France. Et pour info, Paris d'Exil cherche des hébergeurs, voire sur les réseaux sociaux.
Et si pendant ce temps-là, l'Europe des frontières poursuit ses politiques de non-accueil, certains cherchent aussi à mettre un terme aux alternatives d'accueil, surtout quand elles marchent, comme Ariadne et Charlotte.
Mais depuis 20 ans, avec le débarquement d'un premier bateau de migrants kurdes sur les côtes italiennes, le petit village de Riace, en Calabre, mène une expérience originale d'accueil et d'intégration. Un modèle qui pourrait être exporté ailleurs en Italie et en Europe. Mais ce n'est pas du goût du ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini, qui veut y mettre un terme à tout prix. Ces derniers jours, le maire de Riace, Domenico Lucano, a été arrêté, assigné à résidence et éloigné de Riace. Nous avons rencontré Rosaria Lucano, la cousine de Mimo Lucano, qui nous raconte cette expérience et tire la sonnette d'alarme.
Si l'accueil des migrants est parfois décrit comme un casse-tête, il est aussi, dans certaines circonstances, une bénédiction.
Il a fait revivre un village qui était mort.
Depuis que Riace accueille des réfugiés, ces rues désertes reprennent vie. Dans les petites rues du centre, en plus de l'italien, on parle arabe, kurde ou encore ourdou.
Faut dire aussi, hein, il a pris des plis partout.
Mimo Lucano jouit d'une renommée internationale. Il a été élu en 2016 par la revue Fortune parmi les 50 personnalités les plus influentes du monde.
Il a été invité à parler du modèle Riace partout dans le monde.
Matteo Salvini, qui n'a jamais caché son antipathie pour lui, a réagi sur Twitter.
Le sindaco di Riace non dedico neanche mezzo pensiero, proprio zero, zero, è lo zero.
Donc, je m'appelle Rosaria Lucano, je suis
une cousine germaine de Domenico Lucano, Mimmo. C'est le maire de Riace qui a été élu 3 fois.
Riace, donc, c'est un petit village de Calabre, mais qui est mondialement connu du fait de l'expérience en fait, que le maire mène depuis une 20aine d'années d'accueillir les migrants qui arrivent par la Méditerranée.
Oui, exactement. Et il a eu la magnifique idée de demander aux émigrés de Riace de tout un siècle, qui étaient partis en Argentine, en Australie, au Canada, aux États-Unis, et qui avaient laissé leur maison, les avaient abandonnées, et qui étaient en train de se délabrer, s'ils pouvaient les utiliser en prenant soin de les restaurer pour les rendre habitables à nouveau. Et il a commencé à faire ça avec l'aide des migrants eux-mêmes, l'aide de jeunes qui étaient là, qui ne travaillaient pas du village. Et voilà, il a pu commencer à abriter pas mal de migrants qui ont trouvé donc une certaine occupation, qui ont trouvé des métiers, parce que entre-temps, puisque la population était augmentée, il a ouvert des boutiques, une autre maison, ils l'ont fait devenir un restaurant. Et les personnes, migrants et habitants de Riace, travaillaient ensemble. Il a réouvert les écoles, parce qu'il n'y avait plus d'élèves. C'était un village qui était réduit des 2000 habitants originaires, ils étaient devenus 700 ou quelque chose comme ça. Petit à petit, il s'est repeuplé, des gens qui sont revenus. Et avec les migrants, ils sont arrivés à 1700 habitants, donc 400 migrés qui se sont assez bien intégrés. Donc, il a fait revivre un village qui était mort. Et il a donné une maison et une vie neuve à des personnes qui avaient fui les guerres ou la misère, qui avaient fait des voyages épouvantables. Il les a protégés, il leur a enseigné un travail, des mesures qui les aidaient à s'intégrer à la population, non seulement à être assistés. Et ça ne pouvait pas être accepté parce que ça pouvait être exporté dans d'autres villages, dans toute l'Italie, ça pouvait être montré comme on peut transformer quelque chose qui peut paraître un grand stress national comme un avantage.
Et ça contredisait complètement le discours xénophobe du gouvernement.
Bah oui, le discours xénophobe du gouvernement, c'est le gouvernement actuel. Et bah, c'est une telle contradiction à tout ce qu'il dit qu'il faut absolument le faire taire, il faut absolument le détruire, le rabaisser, faire tout ce qui est possible pour que ne prenne pas ultérieurement d'ampleur et qu'il puisse être un modèle exporté. Et c'est pour ça que c'est surtout le modèle Riace que lui dit « on ferme le modèle Riace » ou « regardez ce maire que vous aimez tant ». En réalité, c'est un malfaiteur.
Un zéro, il avait dit.
Ah ben, il avait dit un zéro. Il avait dit un zéro et bon, il m'avait répondu, oui, je suis zéro, c'est vrai, et je serai toujours à côté des zéros de ce monde pour essayer qu'il ne soit plus des zéros, mais qu'il compte exactement comme les autres. Bon, de toute façon, lui, il est comme ça, il est têtu. Il a cette vision, il a cette foi pour cette mission qu'il s'est donnée d'aider... plus pauvre que lui, plus malheureux que lui. Et comme souvent il dit, il poursuit plus un idéal de justice qu'un idéal de l'égalité. Donc il se trouve parfois à aller contre les lois. Et ça, c'est effectivement ce qu'on lui reproche, actuellement.
Domenico Lucano, c'est le maire de la ville calabraise de Riace, a été arrêté en début de semaine pour aide à l'immigration clandestine.
Riace est considéré comme un exemple dans l'accueil et l'intégration des populations migrantes.
L'arrestation de Mimmo Lucano relance des protestations contre la politique menée par Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur.
Son maire, arrêté le modèle de Riace, est en danger, alerte La Repubblica.
Ce week-end, une manifestation en sa faveur était organisée à Riace.
Il nous a toujours aidés. Aujourd'hui qu'il est en difficulté, c'est à nous de ne pas le laisser tomber.
Adesso che lui ha bisogno di noi, noi andiamo tutti con lui.
Hélas, donc depuis le 2 octobre, votre cousin Domenico Lucano a été arrêté.
Oui.
Il a été assigné en résidence. Voilà. Et il est accusé d'aide illégale à l'immigration clandestine, notamment d'avoir organisé des mariages blancs pour obtenir des titres de séjour. Oui. Matteo Salvini avait émis une ordonnance comme quoi tous les migrants seraient évacués de Riace.
C'était une manière de mettre... dans les centres d'accueil. Évidemment.
Voilà. Une manière de mettre un terme au modèle.
Évidemment.
Oui. Finalement, c'est pas... il est revenu sur sa...
Oui, il est revenu parce qu'il y a eu une telle révolte partout, manifestation partout contre ça, que c'était vraiment une cruauté inutile. C'est des personnes qui ont une maison, c'est des personnes qui ont des enfants qui vont à l'école, l'école sont déjà commencées, des personnes qui ont un travail aussi. Et pour les mettre dans des centres d'accueil, que tout le monde sait ce que c'est le centre d'accueil, c'est une promiscuité qui ne sert à rien, ils ne travaillent pas, ils ne font rien du tout, ils ne vivent que d'aumône, et sinon ils sont exploités. Et donc il est revenu sur cette décision, il a dit non, en fait c'est sur une base volontaire, ceux qui voudront partir, ils partiront, et les autres, ils peuvent rester là, mais ils n'auront plus de subventions. Et donc il a dit,
Mimmo,
je veux plus d'avoir des subventions publiques, on va se débrouiller, nous. Et ça aussi, ça n'a pas plu du tout au gouvernement. Et voilà, la dernière solution, ça a été celle de lui dire qu'il ne peut pas rester à Riace. Et pour lui, c'est quelque chose de terrible, parce que toute sa vie, c'est Riace, Riace, c'est sa vie.
Ça, c'est une décision du juge qui est tombée hier.
Oui, avant-hier.
Avant-hier. Oui.
Mmh. Ça saute aux yeux, c'est une décision... politique. On interdit la demeure pour peur d'une réitération du crime, mais lui, il n'est plus maire, il a été suspendu de son rôle de maire. Donc, il ne peut plus marier des personnes. La réitération, ce n'est pas possible. Il dit, ça m'a servi à sauver des vies, donc je regrette de devoir recourir à des systèmes comme ça, mais voilà, je le referai. C'est pas contre l'humanité, mais c'est des crimes pour l'humanité. Voilà, il est condamné pour ça.
Et donc, Riace, pendant 20 ans, ça, c'est devenu un modèle d'accueil et d'intégration. Et maintenant, ça va devenir quoi ? Un bastion de la résistance ?
On espère. En réalité, on espère que tout puisse revenir comme avant, Riace, c'est-à-dire que les migrants puissent rester là, ceux qui le veulent, que ce modèle puisse être répandu, effectivement, dans d'autres villages, parce que de toute façon, on a besoin d'autres personnes. L'Italie, sinon, ça va disparaître dans quelques siècles, parce qu'on a un taux de croissance sous zéro. On diminue au lieu d'augmenter. C'est grâce à eux qu'on augmente, qui va payer nos retraites quand on sera vieux.
Mais là, il y a un véritable bras de fer politique qui s'est engagé entre votre cousin et Salvini.
Oui, c'est un bras de fer et il faut faire plaisir à ces 32% de personnes qui le suivent. Salvini, personnellement, et 60% des personnes qui sont d'accord avec l'action du gouvernement. Et donc, effectivement, c'est un moment assez difficile. Assez difficile. Espérons que c'est quand même comme une cloche d'alerte, alarme citoyen, que ça puisse faire réveiller un petit peu les consciences, ou alors que ce gouvernement... ils se rendent compte qu'on ne peut pas gouverner une Italie de cette façon. On a déjà donné, il y a quelques décennies, on ne veut plus passer par là, là, maintenant.
Affaire à suivre dans Comme un bruit qui court. Retrouvez toutes les informations sur le site de l'émission, franceinter.fr. Laissez-nous les messages, abonnez-vous au podcast Maudiez Comme un bruit et on se retrouve la semaine prochaine à 16h.